Jésus leur dit encore, « C'est moi qui suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Là-dessus, les pharisiens lui dirent, « C'est toi qui te rends témoignage à toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. » Jésus leur répondit, « Même si c'est moi qui me rends témoignage à moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Vous, vous ne savez ni d'où je viens, ni où je vais. Vous, vous jugez selon la chair. Moi, je ne juge personne. Et si moi, je jugeais, mon jugement serait vrai, car je ne suis pas seul. Il y a moi et le Père qui m'a envoyé. Dans votre loi, il est écrit que le témoignage de deux hommes est vrai. Moi, je me rends témoignage à moi-même, et le Père qui m'a envoyé me rend témoignage. » Ils lui dirent donc, « Où est ton Père ?» Jésus répondit, « Vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Il dit ces paroles dans le trésor alors qu'il enseignait dans le temple, et personne ne vint l'arrêter parce que son heure n'était pas encore venue. Il leur dit encore, « Moi je m'en vais, vous me chercherez et vous mourrez dans votre péché. Là où moi je vais, vous, vous ne pouvez pas venir. » Les Juifs dirent, « Va-t-il se tuer lui-même pour qu'il dise, là où moi je vais, vous, vous ne pouvez pas venir ?» Il leur disait, « Vous, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous, vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. En effet, si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Il lui disait, « Qui es-tu, toi ?» Jésus leur répondit, « Ce que je vous dis depuis le commencement. J'ai à votre sujet beaucoup à dire et à juger, mais celui qui m'a envoyé est vrai, et moi je dis au monde ce que j'ai entendu de lui. Ils ne surent pas qu'il leur parlait du Père. » Alors Jésus leur dit, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous saurez que moi je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne m'a pas laissé seul, parce que moi je fais toujours ce qu'il agrée. » Comme il parlait ainsi, beaucoup mirent leur foi en lui.
Si vous étiez ici dimanche dernier, vous avez vu qu'on a sauté un passage, le récit de la femme adultère. Un récit magnifique quand on regarde de plus près. Une femme amenée devant Jésus en flagrant délit d'adultère. Et ses accusateurs demandent à Jésus, selon la loi, cette femme devrait être lapidée. Qu'en dis-tu ? Ils veulent piéger Jésus. Et Jésus de répondre, que celui de vous qui est sans péché lui jette le premier une pierre. Et là, tous les accusateurs se retirent petit à petit, en commençant par les plus âgés. Jésus s'adresse ensuite à cette femme en l'invitant à changer de vie. Un récit magnifique. Alors pourquoi est-ce qu'on ne va pas justement traiter ce récit ? N'est-ce pas le genre de passage d'histoire qu'on a envie de mettre en avant ? Jésus qui ne se place pas en juge, mais qui, dans la vérité et dans l'amour, arrive à dire les choses. Pourtant, il y a plusieurs indices qui montrent que ce texte n'a pas été rédigé par Jean au départ. C'est un des deux passages du Nouveau Testament qui sont sérieusement remis en question sur le point de vue de l'authenticité. Jean 8, 1 à 11 et la fin de Marc 16. Un petit survol des indices. Si cette section elle est présente dans les manuscrits plus tardifs, qui datent du Moyen-Âge, elle est absente de quasiment tous les manuscrits grecs, les plus anciens, et d'autres, dans d'autres langues, syriaque, copte, latin. Le style et le vocabulaire ne sont pas ceux de Jean. Elle est placée, cette section, à différents endroits, chez ceux qui l'ont. Et dans les manuscrits en question, il y a des variantes. Est-ce que ça signifie que ce texte a été totalement inventé ? Probablement pas. On peut penser que c'est bel et bien une histoire qui est vraie, fondée. Mais ce n'était pas dans l'évangile de Jean au départ. cause des indices qu'on a relevés. Et par précaution, on préfère ne pas le traiter. Est-ce que ça devrait nous faire peur? Aïe, le Nouveau Testament, les évangiles, est-ce qu'ils sont authentiques, vrais? Ben justement, c'est l'occasion de dresser un contraste entre ce texte-là, dont on voit les indices d'un manque d'authenticité, avec une formidable convergence en comparant les milliers de manuscrits qu'on a pour le reste des quatre évangiles. Une cohérence qu'on retrouve au niveau du style des auteurs, du vocabulaire, mais aussi la structure. Le texte de ce soir commence avec « Jésus leur dit encore », et c'est un point supplémentaire, pour nous montrer qu'il y a un lien avec ce qui se déroulait avant, au moment de la fête des tentes, au chapitre 7. Il a été question du début de la fête, du milieu de la fête, du dernier jour de la fête, et on a entendu Jésus faire une déclaration forte. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive. Celui qui met sa foi en moi, comme dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. On a vu qu'il est la source d'eau vive qui renouvelle spirituellement le croyant et qui en fait de lui son habitation, l'habitation de Dieu. Et Jésus enchaîne avec une autre déclaration forte qui provoquera elle aussi un émoi et un intérêt. C'est moi qui suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Pour réfléchir à ce texte, on va voir deux points. Un témoignage recevable ou irrecevable? Un témoignage décisif ou négligeable? On commence avec le premier point, hein. Témoignage recevable ou irrecevable? Imaginez la scène, c'est une des grandes fêtes juives, on est au cœur de la vie religieuse, dans le temple, et plus précisément dans le trésor, on le voit au verset 20, les hommes et les femmes ont accès à cet espace-là et peuvent offrir des dons. On sait, grâce à la tradition rabbinique, et on le devine sur ce croquis, qu'il y avait dans cette cour deux, voire quatre chandeliers géants installés avec de l'huile qui permettait à une lumière de rayonner sur toute la ville. À cette période d'équinoxe, d'automne, au moment où la lumière et la nuit sont de longueur équivalente, c'était l'occasion de grandes réjouissances. Et là, avec ces chandeliers en arrière-plan, Jésus affirme « Je suis la lumière du monde ». Et ici, qui d'entre nous, en l'absence de lumière, n'a jamais trébuché? Qui d'entre nous, en pleine nuit, en train de rêver, n'a jamais cogné un meuble, heurté un meuble? Moi, j'ai le souvenir d'un rêve que je faisais, peut-être un cauchemar en fait, quand j'étais en formation pour devenir instituteur. Dans mon rêve, je me trouvais dans une salle de classe et il faisait nuit. J'étais en train de passer des diapositives. Alors, pour la majorité d'entre nous, vous ne savez même pas de quoi je parle. Mais j'étais en train de le projeter. Et dans mon rêve, la télécommande ne fonctionne plus. Et du coup, il faut que j'aille à tâtons retrouver l'interrupteur pour réparer la panne. Bien sûr, les élèves s'agitent, s'impatientent. Je les invite je les rappelle à l'ordre. C'est toujours l'obscurité jusqu'au moment où je trouve l'interrupteur, j'allume. Et c'est là que je réalise que je suis en plein rêve. Et là, je me dis, mais pourquoi? Pourquoi j'ai rêvé de ça? Et je vais me recoucher. Dans mon rêve, j'étais en salle de classe. Dans la réalité, j'étais dans ma chambre. Mais le point commun, c'est l'obscurité. C'est le fait de ne pas voir, le fait de justement avancer à tâtons dans les deux cas. Et si on tient compte de l'importance de la lumière pour notre vie, c'est déjà une déclaration forte que fait Jésus. Mais elle est encore plus forte quand on a l'arrière-plan juif à l'esprit, encore plus fort quand on a l'arrière-plan des Écritures. Écoutez un peu l'importance de la lumière dans les Écritures. La première déclaration qu'on trouve de Dieu, Genèse 1, 3, c'est que la lumière soit. Dieu va se manifester comme une colonne de feu pour conduire et protéger le peuple hébreu dans le désert. Au fil des siècles, on a enseigné ce même peuple à dire ou à chanter « Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur ?» Sa parole dans le psaume 119 est comparée à une lampe, une lumière. Dans les proverbes, la sagesse de Dieu, elle est aussi comparée à une lumière. Le prophète Ésaïe annonce que le serviteur du Seigneur sera une lumière pour les non-juifs. À la fin, Ésaïe annonce un temps futur où Dieu lui-même va être la lumière de son peuple. Ailleurs, le prophète Zacharie, au chapitre 14, écrit la chose suivante. « Ce sera un jour unique, connu du Seigneur. Il ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. En ce jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem. » Moitié vers la mer orientale, moitié vers l'autre mer. Il en sera ainsi comme en hiver, comme hiver, été comme hiver. Le Seigneur sera roi de toute la terre. En ce jour-là, le Seigneur sera un et son nom un. Vous remarquez qu'on retrouve à la fois les eaux vives et la lumière dans ce même texte. Cette lumière que Jésus incarne symbolise bien la révélation de Dieu, la manière dont Dieu s'est révélé à travers l'histoire. Et en entendant l'affirmation de Jésus, comment est-ce que les auditeurs, en particulier les pharisiens, réagissent, l'élite religieuse? C'est toi qui te rends témoignage à toi-même. Ton témoignage n'est pas vrai, témoignage irrecevable. Jésus serait ce serviteur du Seigneur. La révélation de Dieu, la sagesse incarnée, et plus encore, Dieu lui-même, après tout, je suis. Le nom avec lequel Dieu s'est révélé à Moïse dans le buisson ardent. Et ce n'est pas tout, le rayon d'action de cette lumière, ce n'est pas simplement Jérusalem, ce n'est pas simplement le peuple juif, la lumière du monde. Le suivre, lui, c'est ne plus marcher dans les ténèbres. Le suivre, lui, c'est avoir la lumière de la vie. Pour les auditeurs sceptiques, c'en est trop. Témoignage irrecevable. Tu le dis toi-même. Il y a là une allusion à la loi de Moïse qui veut qu'un témoignage, pour être recevable, justement, devait être basé sur deux témoins, au minimum. Et pourtant, quand on tourne les pages et on retourne vers l'évangile de Jean au chapitre 5, on voit qu'à Jérusalem, déjà, Jésus avait anticipé là, l'objection. Et les témoins ne manquent pas. Jean-Baptiste a témoigné de lui. Ses miracles témoignent de lui. Son père témoigne de lui. Les Écritures témoignent de lui. En fait, quand on prend du recul pour observer l'échange qui se déroule maintenant, ils sont en train d'illustrer ce que Jésus affirme. Ils refusent de le suivre, lui qui est la lumière, et ils sont dans l'obscurité et ils vont toujours plus loin dans l'obscurité. Pour le moment, comment est-ce que Jésus leur répond, verset 14, « Même si c'est moi qui me rends témoignage à moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Vous, vous ne savez ni d'où je viens, ni où je vais. » Une des particularités de la lumière, c'est qu'elle se suffit à elle-même. En termes de révélation, c'est elle qui révèle. À l'inverse, nous, on a tous besoin de lumière pour voir. Comment est-ce qu'on pourrait faire la différence entre les couleurs si on n'avait pas de lumière? Comment vous pourriez choisir, mesdames, votre robe, votre t-shirt, messieurs, sans lumière? Comment pourrait-on voir un objet? On peut pallier dans une certaine mesure à l'absence de vision, au toucher, à tâtons. Mais si les ténèbres étaient permanentes et pour tout le monde, la différenciation serait très limitée. C'est la lumière que nos yeux captent. C'est par la lumière que l'on peut voir, aussi simple que ça. Et maintenant, au-delà de l'illustration de la lumière, c'est Jésus qui déclare son origine divine. On l'a déjà vu au chapitre précédent. D'où vient-il? Du Père. Où va-t-il? Vers le Père. Il est le Fils de Dieu, de condition divine, et la révélation, elle vient du haut vers le bas, pas le contraire. On entend souvent que les religions sont en fait l'aspiration des êtres humains qui veulent se projeter, se donner une espérance. Et dans un sens, c'est en partie vrai, la religion peut facilement être une construction de ce que l'homme espère ou voudrait. C'est ce que Jésus va affirmer au sujet de ses interlocuteurs, qui sont pourtant très religieux. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. Des gens qui sont de l'élite religieuse. Pour connaître Dieu, il faut que Dieu se révèle. Dieu se fasse connaître. Sinon, l'humain livré à lui-même va simplement construire sa propre religion. D'un mouvement du bas vers le haut. Mais selon Jésus, c'est vivre dans l'obscurité. Il poursuit précisément en montrant les limites de leur perception. Vous vous jugez selon la chair. Moi, je ne juge personne. Et si moi je jugeais, mon jugement serait vrai, car je ne suis pas seul. Il y a moi et le Père qui m'a envoyé. Et ils jugent de manière purement humaine, sans recul, sans hauteur. Qu'est-ce qu'il entend par, à l'inverse, ils ne jugent personne? Mon avis, c'est qu'ils ne jugent pas comme eux, de manière purement humaine. Son jugement a une perspective divine avec le Père. Ici encore, il l'illustre en utilisant « je suis » comme l'affirmation, une fois encore, de sa divinité. Et quelle est leur réaction? Où est ton Père? Où est ton Père? La réponse de Jésus est explicite. « Vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. À l'élite religieuse, vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Vous ne connaissez pas Dieu. Qu'en est-il de nous? Qu'en est-il de nous? Est-ce qu'on ne serait pas un peu piqué dans notre orgueil si Jésus nous disait « Est-ce que vous me connaissez vraiment? Est-ce que vous connaissez vraiment Dieu à nous ?» qui, je pense, nous disons croyants, est-ce qu'on ne serait pas piqué dans notre orgueil? Et dans la peau d'une personne athée, on se dirait précisément au bénéfice du siècle des Lumières, au bénéfice de l'importance de la raison dans le positionnement. Par la raison, j'arrive à faire la différence entre ce qui est réalité et ce qui est illusion, superstition. J'arrive à vivre une vie morale, j'arrive à me positionner d'une manière équilibrée, sans avoir besoin de l'existence de Dieu. Est-ce qu'on est sûr que les lumières, la raison par elle-même, suffisent pour marcher dans la lumière? Est-ce qu'on est sûr du bien fondé et de l'équilibre de notre raison? Dans un livre, le penseur Svetan Todorov revient sur l'œuvre d'un peintre espagnol, Goya, et voici ce qu'il écrit. Les événements de son temps montrent qu'il ne suffit pas de se réclamer de la raison et d'idéaux tels que l'égalité ou la fraternité pour que votre conduite y corresponde. Les Lumières, mettant en doute la pertinence du socle de croyances sur lequel les peuples vivaient depuis des siècles, cet ébranlement était porteur d'un espoir. L'homme pourrait chercher lui-même son salut au lieu de l'attendre de Dieu et de la Providence. Les révolutionnaires français ont espéré atteindre cet idéal. Mais Goya est le témoin de l'occupation napoléonienne en Espagne. Il voit bien que cette armée auréolée des idéaux, des Lumières et de la Révolution, saluée par une partie de ses amis éclairés, amène la guerre, la répression, la violence, tout en suivant ce courant des Lumières, Goya ne peut que constater les limites de la raison. Pour sortir d'une perspective limitée et uniquement humaine, Jésus affirme qu'il faut le suivre lui, parce qu'il a cette perspective divine. Celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Pour beaucoup aujourd'hui, suivre Jésus, c'est mortel. C'est ce qu'il y a de plus déprimant. C'est le deuil de tout sentiment de liberté, de refouler mes plaisirs. lorsqu'il dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, mais ça, c'est plutôt le meilleur moyen de déprimer, de perdre tout ce qui nous est cher. Lorsqu'il dit que plutôt que de vivre des aventures à droite et à gauche, je devrais m'engager dans le cadre d'une relation exclusive, précédée d'une promesse, c'est vu comme la meilleure façon d'étouffer sa vie sexuelle et de manquer des opportunités. Lorsqu'il me dit que plutôt que de mentir, je devrais dire la vérité, c'est la meilleure façon de m'empêtrer dans des problèmes. Mais Jésus affirme que le suivre et suivre la lumière, c'est vivre dans la lumière de la vie, au contraire de la mort. Il donne la vie dans toute sa profondeur et dans toute sa beauté. Et le commentaire avec lequel Jean termine cette partie, c'est qu'ils veulent se saisir de lui, mais ils n'arrivent pas parce que son heure n'était pas encore venue. On arrive à un témoignage décisif, courtement ou négligeable. Dans cette deuxième partie, Jésus parle dans des termes forts pour dire que son témoignage, il est important à entendre. La mise en garde, elle revient à trois reprises. « Moi, je m'en vais, vous me chercherez et vous mourrez dans votre péché. Vous mourrez dans votre péché, dans vos péchés. » Et la synthèse, pour ce qui est de la raison, au verset 24, « En effet, si vous ne croyez pas que moi, je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Là, on se pose la question, mais est-ce que Jésus n'est pas un peu trop dramatique dans la façon dont il parle? Est-ce qu'il ne met pas un peu trop les émotions, les sentiments dans l'affaire? On préférerait l'entendre dire quelque chose comme « Si vous ne croyez pas que moi je suis, vous allez manquer quelque chose de beau. Si vous ne croyez pas que moi je suis, vous allez manquer un gros bonus dans votre vie. » Mais il est beaucoup plus catégorique. Ne pas reconnaître sa perspective, ne pas reconnaître sa divinité, qui il est, c'est mortel, littéralement. Son témoignage, décisif ou négligeable? Est-ce qu'il ressemble à une personne qui témoigne sur l'émission de France Info où la personne aller-retour, je crois que ça s'appelle, la personne parle de son voyage, un voyage par exemple en Amérique du Sud, et qui dit comment ça s'est passé, les bons moments, les surprises et autres, et on arrive au bout et on se dit... Ah, c'était sympa. Au mieux, on aura envie de faire un voyage à peu près similaire. Mais ce n'est pas essentiel de faire le même voyage. C'est son témoignage. Ou est-ce que le témoignage de Jésus ressemble à celui d'un médecin qui connaît bien les enjeux, qui connaît bien les tenants et les aboutissants de votre situation et qui vous dit que si vous n'arrêtez pas telle habitude alimentaire ou si vous continuez dans telle ou telle dépendance, vous allez mourir. Et on sortirait de là en disant, oh, c'est son témoignage à lui, c'est sa perspective à lui. C'est pas si grave que ça. Dans la perspective de Jésus, dans la perspective de Dieu, la situation dans laquelle l'être humain se trouve est grave. La mort ici a le sens d'aliénation de Dieu. Elle est vue sur un plan éternel. Elle correspond à l'état de révolte dans lequel l'être humain se trouve. Et en ayant rejeté le Fils, c'est normal, c'est tout à fait normal de ne pas aller vers le Père qu'il a envoyé. Mais qu'est-ce qu'il entend quand il dit « Vous me chercherez sans me trouver ». Il y a de l'ironie dans ce passage quand on y réfléchit. Lorsque Jésus parle de son départ, les auditeurs se demandent, est-ce qu'il va se suicider parce qu'on ne peut pas le rejoindre là où il va? L'ironie, c'est que c'est eux-mêmes qui vont le faire mourir. Ce n'est pas un suicide, c'est eux qui vont le mettre à mort. Et lorsque Jésus dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, il parle de la crucifixion qu'ils vont lui infliger. Élévation qui annonce son ascension vers le Père. Et dans un sens, ils vont être satisfaits de se débarrasser de quelqu'un de gênant dans leur manière de voir Dieu qui dérangeait. Et au verset 28, Jésus affirme néanmoins que ce sera pour certains l'occasion de constater qu'il a accompli toujours la volonté de son Père, qu'il est allé jusqu'au bout. Difficile de dire si la recherche dont il est question ici sera sincère. Est-ce qu'elle est sincère, cette recherche ? Un commentateur de ce passage affirme que c'est plutôt la figure du Messie qu'ils vont chercher, pas Jésus en tant que fils de Dieu. Ils vont rechercher un Messie. La réalité telle qu'elle est présentée ici montre qu'en fait, ils sont dans le flou, ils pataugent dans l'obscurité et toujours plus loin. Regardez toutes les questions qu'on retrouve encore et encore. D'où vient-il? Où va-t-il? Qui est le Père dont il parle? Qui est Jésus? On les a déjà vues, ces questions, mais on y retourne constamment. Jésus a montré des signes qui témoignent de sa divinité. N'a pas cessé de montrer qu'il incarne la révélation de Dieu. « Je suis la lumière du monde », mais il la refuse, cette lumière. Le problème, c'est qu'en refusant cette lumière, en refusant de le suivre, ils sont en train de démontrer la vérité de ses paroles. Et ils sont diamétralement opposés à Jésus. Pour chacune des questions posées concernant Jésus, c'est l'inverse qui est vrai pour eux. Si Jésus vient d'en haut, eux, ils sont d'en bas. Et ils refusent sa perspective. Si lui ne vient pas du monde, eux viennent du monde. Et dans un contexte qui se veut indifférent vis-à-vis de lui. Où il va, ils ne peuvent aller. Ce passage, il pourrait paraître bien sombre quand on voit cette distance qui se crée entre Jésus et ses deux auditeurs. Pourtant, il se termine avec une note encourageante. Verset 30, « Comme il parlait ainsi, beaucoup mirent leur foi en lui. » Ils n'ont certainement pas tout compris, mais il y a quelque chose qui les attire chez Jésus, chez un certain nombre de ses auditeurs. Et pour vous, qu'en est-il ? Qu'en est-il de vous lorsque vous entendez Jésus affirmer qu'il est la lumière du monde ? Est-ce que je vois l'aspect décisif de son témoignage ou est-ce que je le considère comme négligeable ? Si je vois son témoignage comme négligeable, Jésus prévient que c'est la mort qui attend, qui est au bout. Une tragédie pour tous ceux qui ne le reconnaissent pas. Aliénation de Dieu, séparation de Dieu. À l'inverse, si je réalise que son message, et en particulier sa divinité, sont la seule solution, sa venue, son élévation à la croix, sont le moyen pour moi d'être vivant spirituellement, alors je vais pouvoir voir la beauté de ce qu'il annonce implicitement. Si je reconnais en lui le Fils de Dieu venu pour me sauver, je vis assis, selon l'Épître aux Éphésiens, avec lui dans les lieux célestes. Je suis associé à lui. Selon lui, je peux vivre avec la perspective que je suis uni à lui et qu'un jour ce glorieux avenir sera manifesté, selon l'Épître aux Colossiens. Ma destinée est liée à la sienne et je peux vivre de cette sécurité-là, de cette clairvoyance-là. Je vous invite à la prière. Notre Père, nous te prions que tu nous accordes en effet de reconnaître en Jésus celui qui est la lumière du monde. Accorde-nous la grâce de le suivre et de voir que sa lumière donne la vie. Nous te le prions au nom de Jésus. Amen.